de spécifier des individus, de reconnaître des individus, d'identifier des individus. Cela dit, c'est une arme à double tranchant, parce que vous pouvez à la fois innocenter, comme c'est décrit d'ailleurs dans le monde diplôme, vous pouvez innocenter des coupables, mais vous pouvez aussi démontrer la culpabilité de soi-disant innocents. Donc c'est aussi une arme à double tranchant, mais qui est effectivement efficace pour identifier les individus. De ce point de vue-là, l'ADN, à partir du moment où il s'intéresse à l'individu en tant que support de son essence, l'ADN est parfaitement efficace de ce point de vue-là.
Oui, juste pour terminer, je voulais juste bien faire une distinction parce qu'on a un peu tendance souvent à mélanger tout ce qu'on peut faire avec l'ADN. Et c'est vrai qu'il y a une première chose qui est l'identification. Et de façon formelle, avec l'ADN, on arrive aujourd'hui à identifier les gens. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la prédiction, que ce soit d'être malade, que d'être un animateur de radio, enfin, toutes ces choses qu'on peut imaginer autour. Et en fait, c'est deux fonctions différentes, deux choses différentes qu'on peut ou pas faire, et c'est important d'avoir une réflexion qui se base sur cette différenciation entre les deux situations, parce que les implications sont potentiellement très différentes, et en particulier pour tout ce qui est sélection par exemple à la naissance, parce que dans l'article du Monde en question, il cite un mec qui est très content de pouvoir dire que sa petite fille va pouvoir choisir si ses enfants auront les yeux bleus ou pas. Donc ces questionnements-là, c'est des questionnements qui sont vraiment des questionnements de long terme, où on peut imaginer avec ces savoirs-là, que les gens vont avoir une action sur l'évolution de l'espèce. Donc voilà, c'est juste pour dire que ces deux sujets sont distincts, qui reposent tous sur l'ADN, mais sur des enjeux différents. Et c'est important.
C'est un avatar de l'eugénisme, tout ça. C'est l'eugénisme qui continue.
Qui peut continuer de façon douce et de façon insidieuse, dans la mesure où c'est quelque chose qui va être individuel. Les gens vont personnellement choisir, comme dans le film, je ne sais pas si les auditeurs ont vu ce film Bienvenue à Gattaca, qui est sorti il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui raconte un monde terrible dans lequel on a l'impression qu'on va rentrer d'ici peu. Et où c'est les gens qui vont, les couples, avant d'avoir un enfant, vont chez le médecin et choisissent ce qu'ils veulent pour leur enfant. Évidemment, tous les couples vont vouloir avoir des enfants beaux, intelligents, chacun aura sa définition du beau, mais il peut y avoir de façon très insidieuse des effets qui peuvent être plus importants que ce qu'ont pu essayer de faire les gouvernements dans les années 30 ou 20 en Europe.
Il faut relire Boris Vian, Il en tuera tous les affreux, où il y a un savant fou eugéniste qui essaye de faire des mâles et des femmes extrêmement belles, et ça se termine de manière assez comique. Mais je laisse les auditeurs le découvrir, ça vaut la peine.
Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
The ability of genetic engineering to choose the genes.
In the not too distant future, in a society where success is determined by science, welcome to Gattaca.
On va continuer avec le Paraguay, où se trouvait il y a peu de temps Renaud Lambert, collaborateur éminent du monde diplomatique et de la base où j'y suis réuni. Et d'habitude, on parle de l'Amérique latine ici avec Maurice Lemoine, qui est toujours ravi de nous rappeler le basculement du sous-continent vers la gauche, en gros. Hein. Eh ben non, selon Renaud Lambert, les récentes élections au Paraguay montrent que le virage rose ne recouvre pas forcément tous les espoirs qu'on y place.
Oui, exactement. Ça fait un moment maintenant que cette vague rose-rouge a déferlé sur l'Amérique latine, et les nuances de rose commencent à être si nombreuses que certains ont des doutes. D'ailleurs, l'un des intérêts, à mon avis, de suivre les élections au Paraguay, c'était de faire le pendant de ce que l'auteur Tom Frank a fait sur les États-Unis. Il s'était interrogé sur les raisons qui amenaient les pauvres à voter à droite. Et aujourd'hui, au Paraguay, on peut s'intéresser aux raisons qui amènent les riches à voter à gauche. Alors, pas tous les riches, évidemment, mais une partie non négligeable, notamment au sein du patronat du pays. Alors, il y a différentes raisons qui peuvent amener ces classes dominantes, privilégiées du Paraguay, à se décider à voter à gauche, puisque le candidat désormais élu, Fernando Lugo, a été présenté dans la presse quasiment unanime comme un candidat de gauche. La première des raisons, c'est que c'était difficile pour cette classe dominante de voter à droite. Le parti de droite traditionnel, c'est le Partido Colorado, qui est au pouvoir au Paraguay depuis 61 ans, qui est un parti qui a été lié à la dictature extrêmement répressive d'Alfredo Stroessner pendant 35 ans, un parti qui a lui-même organisé la transition vers la démocratie, mais sans réellement changer le personnel politique et en continuant d'orchestrer la domination économique de certains sur les autres.